Vous écoutez Paroles d'Archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'histoire. Bonjour, je suis Sabine Lemler, metteur en scène au sein de la compagnie artistique VIA. Avec VIA, nous créons des projets qui mêlent théâtre, pédagogie et mémoire. Depuis plusieurs années, je travaille avec les jeunes car les rendre acteurs de leur apprentissage me tient particulièrement à cœur. Avec les artistes Violaine Marine Embold et Mathieu Goust, nous avons imaginé des spectacles historiques et mémoriels. Paroles d'archives, une histoire alsacienne et périgourdine sur l'évacuation des Alsaciens en 1939 et France-Algérie correspondance autour des liens entre la France, l'Algérie de 1830 à nos jours. Ces spectacles, nous les jouons dans les collèges et les lycées. Après chaque représentation, un bord plateau, un moment de partage, permet aux élèves de réagir, de poser leurs questions et de laisser la parole circuler. Nous avons voulu aller plus loin. C'est ainsi qu'est née cette série radiophonique. Dans cette deuxième saison, vous découvrirez de nouvelles classes, de nouvelles voix, de nouvelles histoires. Les jeunes y mènent leurs propres recherches sur des événements du passé, avec l'idée que cette exploration leur donne envie d'aller à la rencontre de leur propre histoire. Peut-être cela vous donnera, à vous aussi, le désir d'aller fouiller dans vos archives familiales. Alors bonne écoute et à très bientôt.
Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'événements historiques du XXe siècle. Ce projet a obtenu le label Mission Libération de l'État.
Avec la classe de 3e 1, nous avons travaillé sur le roman graphique Le lierre et l'araignée de Grégoire Carl. Grégoire Carl a fait un important travail de recherche. Il a dû combler les trous de l'histoire de son grand-père qui, hélas, ne lui a pas tout raconté. Son grand-père, c'est Bernard.
Il faisait partie d'un groupe de résistants de Hillkirch, la feuille de lierre. Ces résistants étaient à peine plus âgés que nous. À notre tour, nous avons voulu redonner vie à ces jeunes gens, comprendre leur engagement et honorer leur courage.
Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Les Alsaciens et les Mosellans sont évacués avec 30 kg de bagages et 4 jours de vivres. Les réfugiés sont emmenés vers le sud de la France, le Gers, l'Indre, la Dordogne et les Landes. Strasbourg est vidée de ses 200 000 habitants.
Le 13 mai 1940, l'armée allemande traverse la frontière au niveau des Ardennes. Le 14 juin 1940, la France est vaincue, les nazis sont à Paris. Le 17 juin 1940, à midi 20, le maréchal Pétain demande à signer un armistice.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi.
Le 14 juillet 1940, l'Alsace-Moselle est annexée de fait par le Troisième Reich.
Les populations en exil doivent regagner leur foyer. Sauf les Juifs, les Tziganes, les francophiles, les condamnés, les déserteurs de la Première Guerre mondiale. À leur retour, tout a bien changé.
Hey, mais c'est Paul, comment vas-tu ?
Salut Bernard, je vais très bien et toi, comment vas-tu ?
Oh, ne dis plus ça. Maintenant, c'est Hitler. Et aussi, je ne m'appelle plus Bernard, mais Bernhard.
Ah bon ? Y a-t-il d'autres changements ?
Oui. La langue française a été bannie, seul l'allemand est accepté. Attends, écoute, le chef de la propagande prend la parole.
Hi Hitler, willkommen. Nous savons ce que représente le retour pour vous. Nous savons ce que vous avez subi. Si votre pays est préservé des destructions de la guerre, vous le devez à l'homme qui l'a protégé, Adolf Hitler.
C'est le même baratin tous les jours.
Je crois qu'on a fait une connerie. La Dordogne, c'était pas mal.
Si nous étions restés, les nazis auraient confisqué le bistrot pour le donner à des sacs.
De toute façon, avec ce que vaut le franc désormais, on va servir les chevaux gratuitement.
Heilo, Heilo, toi là, tu vas t'engager dans les jeunesses hitlériennes. Le Führer te filera un super couteau. Regardez comme la France vous a abandonné. Mais vous, vous avez de la chance. Vous êtes les gagnants de cette guerre.
Ah, au fait, Paul, il te faut aussi travailler comme moi dans les usines
du Reich. Oh mon Dieu, où est la synagogue ?
Elle a été brûlée par les nazis le 3 septembre.
Bernard, raconte-moi les autres changements.
La statue de Kléber a été retirée, la place Broglie s'appelle désormais la Adolf Hitler Platz. Tous les noms de rues ont été changés.
Mais dans quelle misère on a atterri ?
Nous sommes en 1940. Bernard est apprenti dans une usine qui se nomme la SACM, la Société Alsacienne de Construction Mécanique. Son nom a été remplacé par Mack der Burga, Werkzeug Maschinenfabrik. Avant l'arrivée des Allemands, l'usine fournissait des trains au monde entier. Mais à présent, les ouvriers ne doivent travailler que pour le Troisième Reich. Ils sont constamment surveillés par des hommes qui les maltraitent.
Quand ils ne sont pas à l'usine, Bernard et ses amis profitent du vent pour se baigner et pêcher. Dans ces moments de détente, ils ont à nouveau leurs 15 ans.
Bernard, tu as passé une bonne semaine à l'atelier ?
Depuis qu'ils ont remplacé les contremaîtres français par des Allemands, dur de tenir le rythme. Bosser 72 heures par semaine, c'est pas humain. Ça fait du bien de se balader dans la
c'est
forêt.
C'est clair, les chômes ne nous facilitent pas la vie, surtout avec le salaire qu'ils nous donnent. En plus, ils prélèvent la plupart de notre argent pour financer les
heureusement que cette forêt nous protège de la surveillance du Gauleiter.
Le grand chêne nous permet de nous reposer. C'est comme notre repère.
Quand je pense qu'on devrait être au grand rassemblement du parti nazi à Strasbourg, qui réunit des hommes d'Hitler et des Alsaciens soumis, on est quand même mieux ici.
Viens, on va faire un tour de vélo.
Tu as vu le fort ? Si on allait le visiter. Hé, Xavier, viens voir ça.
Des caisses de grenades.
Il y a des centaines de caisses ici. Ça doit appartenir au Schwab.
Non, je ne pense pas, car l'écriture est en français. Viens, allons jeter les caisses dans la rivière pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des nazis.
Les bords du Rhin, à l'automne 1940, notre bande de jeunes se prépare à faire face aux Allemands. Ils s'entraînent à lancer des grenades dans le Rhin. Ce groupe de résistance est composé de 4 sections ayant chacune un chef.
Dans ce groupe, tous sont différents, par leurs croyances, leur idéologie. Mais tous viennent de l'usine. Leur symbole est la feuille de lierre. Leur devise, toujours vert, toujours fidèle.
Pourquoi le lierre ? Car il offre un manteau protecteur à l'arbre sur lequel il s'installe contre toute une faune prédatrice de parasites. C'est un allié de l'ombre.
Hé les gars, vous avez tous reçu votre carte de membre de la Feuille de Lierre ? Vous êtes les chefs des 4 sections de notre groupe de résistance. Edmond pour la première section, Xavier pour la deuxième, Antoine pour la troisième et moi, Bernard, pour la quatrième. Je vous propose de lister toutes les actions à mener pour pourrir la vie des Schwab et lutter contre l'occupant.
Est-ce que vous êtes tous bien inscrits à la Fort Bildungsschule pour que la Hitlerjugend cesse de nous embêter ?
Oui, tout le monde est inscrit. Sinon, on a récupéré les grenades au Fort.
D'ailleurs, comment ça se fait qu'on ait autant de grenades ?
Les soldats français sont partis sans penser à les prendre. Avec Edmond, on a entraîné les gars à lancer des grenades dans un.
Vous avez prévu de les cacher où ?
Nous, on va enterrer les détonateurs et les cordons au pied d'un chêne, mais le mieux, c'est que chaque section trouve ses propres cachettes. À part ça, on a aidé des Français à s'échapper. On leur a donné de la nourriture, des habits et on les a aidés à foutre le camp d'ici. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu prévois de faire avec ta section ?
Avec ma section, on a prévu de couvrir les murs de tags anti-nazis et de saboter les
aiguilles. Attends, excuse-moi de te couper, mais j'ai trouvé des pots de peinture bleue, blanche et rouge. Je me disais qu'on pourrait les
utiliser. Oui, bonne idée, on pourrait les utiliser pour peindre quelque chose.
Les boîtes aux lettres, on pourrait peindre toutes les boîtes aux lettres d'Hilkirch aux couleurs de la France.
Oui, et pourquoi pas un peu ?
Ok, on fait ça, ça nous changera du caillassage des vitrines des magasins pro-nazis.
Pour ma section, aucun drapeau ne résiste à nos attaques aux lance-pierres qui déchirent tout. Et à l'usine, on sabote le plus de pièces possible pour ralentir la production destinée au Reich. Le soir, on distribue des tracts anti-nazis.
Bravo. Bon, je crois qu'il est l'heure de rentrer, sinon on va dépasser le couvre-feu. Et que personne n'oublie d'écouter Radio Londres.
Il existe un autre groupe de résistants que la Feuille de Lierre, la Main Noire. La Main Noire est une organisation clandestine qui agit à Strasbourg. Elle a été créée en septembre 1940 par Marcel Weinum. Ils sont en tout 25 garçons de 14 à 16 ans. Ils se sont rencontrés à la maîtrise de la cathédrale.
Les acteurs principaux de ce groupe sont Marcel Weinum, le chef, et son bras droit, Czesław Zeratski, orphelin et apprenti boulanger. La main noire symbolise la main vengeresse qui s'oppose aux affronts nazis faits en Alsace.
Hé les copains, on a une sacrée concurrence à Strasbourg. Ça pète dans tous les sens. La carriole du Gauleiter Wagner s'est transformée en beau feu d'artifice hier devant le resto Adelsofen.
C'est un coup de la main noire, Xavier, qui leur a fourni quelques-unes de nos grenades, m'en a parlé.
Ils doivent aussi en trouver dans les fortins abandonnés. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils ont jeté une grenade dans les bureaux du journal antisémite Der Stürmer. Bien fait pour eux.
Ils ont aussi explosé la boucherie d'un commerçant pro-nazi. Ils n'avaient qu'à pas exposer le buste en bronze du Führer.
En tout cas, le boucher préfère payer une amende après.
Par contre, ils ont épargné le fleuriste. Il a été malin. Il a déposé des chrysanthèmes autour du portrait d'Hitler. Pour lui, c'était longue vie sans doute. Cet acte de résistance lui a évité l'explosion de sa boutique.
Il paraît qu'ils ont lancé une bombe artisanale au palais des fêtes lors du rassemblement de la Hitlerjugend.
Oui, ça a fait beaucoup de bruit.
On devrait prendre exemple et agir plus violemment nous aussi.
Le 26 juillet 1941, à 7h30 du matin, les membres de la Feuille de Lierre sont arrêtés à l'usine et à leur domicile. Ils sont interrogés au siège de la police à Strasbourg. Aucun ne parle malgré la torture.
Ils sont emmenés à la prison de Kehl. 8 jours d'interrogatoire à coups de matraque. Pendant ce temps, les domiciles sont perquisitionnés. La Gestapo ne trouve aucune preuve grâce aux familles qui veillent à protéger leurs enfants, sauf chez l'un d'entre eux.
Direction le Sicherungslager de Forbourg-Schirmeck, le camp de Schirmeck pour être éduqué en doublon nazi. Le but est de détruire les prisonniers mentalement et physiquement pour qu'à leur retour, ils soient des exemples de ce que subit tout opposant au régime. Là-bas, c'est l'enfer.
La main noire subit un sort identique. Après l'attentat contre la voiture du Gauleiter le 8 mai 1941, Marcel Weinum et Czeslaw Sieradzki tentent de s'enfuir. Mais ils sont retrouvés et envoyés au camp de Schirmeck.
Marcel Weinum endosse la responsabilité de tous les faits reprochés à la main noire. Il est jugé, déclaré coupable puis exécuté le 14 avril 1942. Il n'avait que 18 ans. Au camp de Schirmeck, Czeslaw Sieradzki est exécuté de manière monstrueuse par les nazis après avoir crié « Vive la France !». Il n'avait que 16 ans.
Mardi 28 janvier 2025, nous avons eu la chance de rencontrer Grégoire Karl, l'auteur et l'illustrateur du Lierre et l'araignée.
Nous le remercions chaleureusement.
Grâce à lui et l'histoire de ces jeunes résistants, nous avons mieux appréhendé la complexité de l'histoire alsacienne durant la Seconde Guerre mondiale.
Nous avons pris conscience du lourd tribut que notre région a payé.
Grâce à lui, nous saisissons l'importance de questionner les anciens afin que notre histoire ne parte pas dans l'oubli.
Bravo à la classe de 3e 1 du Collège du Parc à Ilkirch. Aya, Sherine, Marc, Oscar, Shaina, Naël, Ryan, Adjar, Lina, Evan, Ryan, Zina, Camélia, Cridi, Lilia, Elmedine, Mathilde, Marois, Daphné, Élise, Manel, Yacoub, Nathaël, Léonis, Yura, Amit, Nathan, Mélina et Louise. Merci à leurs professeurs Anne Forestier, Barbara Haberstroh, Cathy Ecker, Alexandra Schumacher et Claude Martineau. Merci à la principale, Magali Chico-Régnier. Enregistrement, Violaine Marinembold et Mathieu Gouste. Montage et mixage, Mathieu Gouste. Sur une idée de Sabine Lemler, conçue par la compagnie VIA de Strasbourg. Création musicale, les élèves de terminale de la section musique du lycée Marie Curie de Strasbourg et leur professeur Marie-Annick Guillemin. Ainsi que les élèves de 3e 3 du Collège du Parc de Ilkirch et leur professeur Martin Capès. Merci à nos partenaires, la Région Grand Est, l'Organisme National des Combattants et Victimes de Guerre, les Archives Départementales d'Alsace, la Collectivité Européenne d'Alsace, le Pass Culture et le Crédit Mutuel.